RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, c'est parti pour les GG pour les grandes gueules. Content de vous retrouver bien évidemment, vous allez être avec nous au 32-16 en direct jusqu'à midi. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG, nous sommes avec Fatima Hidbounoua, la professeure de français. Bonjour.
Bonjour, bonjour les grandes gueules de l'ombre et bonjour aussi les anges gardiens de l'ombre. Qui sont-ils? Tous les soignants de l'hôpital Tenon. Voilà, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer plusieurs, que ce soit médecins, infirmières, et ils ont été exceptionnels.
Nous sommes avec Antoine Dier, ce consultant juridique, le Dunkerquois. Bonjour Antoine.
Salut Alain, et bonjour à tous.
Et puis, venu des Hauts-de-France aussi, le Touquetois, donc du Touquet, Emmanuel Deville, chef d'entreprise. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Alain, bonjour à la France.
Il y a du lycée, elle n'est pas cravatée aujourd'hui Emmanuel.
En mode style. Détente.
Pas la cool, débraillé.
Oui, mais décoré.
De quoi va-t-on parler aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules? D'Emmanuel Macron qui visiblement va se mettre à verrouiller à tour de bras les postes clés de la République. On va parler bien sûr de l'affaire Epstein avec un diplomate français dans la tourmente du plein emploi. Paris impossible en force. Jérôme Guedj, peut-être notre futur président de la République. Il sera l'invité des GG tout à l'heure à 11h.
On voit que tu as la conviction quand tu le dis. Tu y crois
mais
toi-même.
Oui. Il faut miser sur les outsiders.
Mais ce qui compte, c'est le mental pour l'emporter.
On en parlera avec lui tout à l'heure. Je vous propose, en premier sujet de discussion, qu'on s'intéresse à ce qui s'est passé à Genas, près de Lyon, avec cet homme de 70 ans qui a tué un jeune qui tentait visiblement de le cambrioler. Il y a une pétition de soutien qui a été lancée en sa faveur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'occupant de cette maison, cet homme de 70 ans, dit avoir entendu des bruits sur le toit et avoir fait face à une tentative d'intrusion armée à son domicile.
En plein milieu de la nuit, hein, ça s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi, là, en début de semaine. Il est 3h20, aux alentours de 3h20. Effectivement, l'homme, le propriétaire de la maison qui a 70 ans, une maison située dans un quartier pavillonnaire, apparemment tranquille, dans la commune de Genas, on est dans le Rhône. Donc à 3h20, il entend du bruit, il va voir ce qui se passe, et en fait, il y a un jeune de 19 ans qui a réussi à pénétrer par le toit en retirant des tuiles pour accéder au grenier. Il s'est dirigé donc vers l'intérieur du logement par une trappe, et à ce moment-là, donc l'homme qui était armé, d'ailleurs il a une arme qu'il détient légalement, a tiré sur le jeune et l'a tué. Donc les premiers éléments de l'enquête confirment que effectivement il y a eu un homicide, alors volontaire ou involontaire, on verra, c'est ce que dira la justice. Donc le propriétaire est en garde à vue, et là tout d'un coup il reçoit des soutiens, et notamment le maire du village qui dit non, moi je soutiens cet habitant qui a eu peur et qui a réagi par peur. Et il y a d'ailleurs une pétition qui circule qui a déjà recueilli 15 000 signatures. Est-ce que vous seriez prêt à signer cette pétition de soutien?
D'autant que le maire s'appuie aussi sur les faits, c'est-à-dire des cambriolages incessants dans cette zone pavillonnaire, dans tout l'Est lyonnais, de jour comme de nuit, dit le maire. Alors bien évidemment, il va falloir, l'enquête devra déterminer, puisque la légitime défense, elle doit être proportionnelle à la menace. Alors, est-ce que vous seriez prêt à signer cette pétition? 32-16 pour en discuter avec les GG. Antoine,
tu as évoqué le mot, tu as évoqué l'expression légitime défense. Remettons-nous dans la situation, un homme seul dans sa maison de 70 ans à 3h20 du matin, qui entend a priori plusieurs personnes sur son toit, qui est cambriolé. Eh bien, il fait face à un homme armé, il s'avère qu'il est armé, a priori, à confirmer bien sûr par l'enquête. Eh bien, l'homme riposte. Ça me semble parfaitement naturel, légitime. Tu l'as dit, dans un quartier où il y a de plus en plus de cambriolages. Eh bien, moi, je suis un partisan farouche de la légitime défense. Il y a un cadre légal et réglementaire, les juges se prononceront. Mais moi, sur le principe, quand on entre chez quelqu'un de nuit, armé, je pense qu'on a le droit de se défendre.
Ce que devra déterminer l'enquête, hein, s'il était armé.
Il y a un cadre réglementaire qui est encore un peu
restreint.
A priori,
apparemment, il était armé puisque l'enquête est ouverte pour, il y a deux enquêtes. L'une pour homicide involontaire qui concerne donc le propriétaire et l'autre pour tentative de vol avec arme.
Et je vais vous dire, même si le cambrioleur s'avérait ne pas être armé ou que l'arme était factice, etc. Pardon, mais t'as 70 ans, on entre chez toi. À 3h20 du matin, t'as entendu plusieurs personnes. Je trouve normal et légitime qu'il y ait riposte et que tu te défendes.
Fatima.
Je pense qu'on va caricaturer ceux qui ont signé la pétition. Mais cette pétition, elle veut surtout dire « nous aurions pu être cet homme ».
Oui.
C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire « nous aurions pu être, nous sommes solidaires de cet homme parce que nous aurions pu être cet homme. Nous aurions pu parce que c'est la nuit, parce que c'est la maison et que c'est un espace intime. Et donc, il y a quelqu'un qui vient dans l'espace intime. Nous aurions pu, avec la peur, réagir de la même manière dans un instinct de protection. Donc, effectivement, pour moi, c'est de la légitime défense. Effectivement. Mais quand je dis légitime défense, je ne suis pas avocate. Donc, effectivement, des avocats vont nous expliquer qu'il y a des critères, il y a 4 critères. Je les laisse dérouler. Moi, ce n'est pas selon le code pénal ou le code légal, c'est selon le code tripal. Donc, effectivement, l'opinion publique, selon ce code tripal, le code qui vient des tripes, tu dis maison, en pleine nuit, un vieux monsieur, un cambrioleur, on comprend que la personne ait voulu se défendre. Et mais effectivement, après, ça va passer devant la justice, on va nous dire qu'il y a des critères. Entendu, on entendra ces critères. En tout cas, les personnes qui ont signé la pétition, on ne va pas les caricaturer en disant que c'est des gens qui disent on a le droit de tuer, de tirer sur tout et n'importe qui. Ce n'est pas du tout ça, cette pétition.
Ce que dit la pétition.
C'est le soutien à un homme et la compréhension et dire notre empathie, notre compassion, notre soutien va de son côté parce qu'on n'aurait plus être lui.
Être à sa place,
c'est ça que ça veut dire.
L'intitulé de la pétition, c'est « Unissons-nous pour soutenir notre voisin de Genas qui, victime d'un cambriolage, n'a eu d'autre choix que de se défendre dans un moment de panique face à des intrus menaçant la sécurité de son foyer. Cet acte de légitime défense, il est écrit bien, qui est comme émotionnellement et physiquement difficile, mérite notre compréhension et notre appui. » C'est ce qu'ont écrit les auteurs de cette pétition. Tu pourrais la signer ou pas, Emmanuel ?
Absolument. La France est en déliquescence sociale et sécuritaire. Et on est là à ergoter comme dans un jeu du Mikado, à savoir si quand même...
Il y a mort d'homme quand même.
Oui, mais
il y a mort d'homme.
Oui, mais comme pour les squatteurs qu'on devrait pouvoir déloger sans procédure à partir du moment où ils rentrent illégalement dans une maison, comme pour les policiers ou les gendarmes qu'on met en cause à tout bout de champ alors qu'il y a une insécurité, des crimes et des délits partout, les principes de la légitime défense en France sont complètement fous. On marche sur la tête. C'est pas à des juristes planqués dans des bureaux à décider comment on doit se protéger chez soi. D'ailleurs, les autres pays européens, Italie, Espagne, Allemagne, ont une approche beaucoup plus large de la légitime défense à domicile. Si on regarde un grand pays comme les États-Unis, il y a même une présomption de légitime défense quand on pénètre dans une propriété privée, quelle qu'en soit la taille. Il n'est absolument pas normal que les critères actuellement en vigueur en France soient toujours en cours. Cette proportionnalité est absolument ridicule. Je suis juriste de formation. La proportionnalité, ça veut dire qu'il faut qu'on soit déjà atteint très gravement avant de pouvoir commencer à penser à riposter. C'est scandaleux. On marche sur la tête. Il faut maintenant, si on veut ramener la sécurité en France, non seulement que les forces de l'ordre puissent agir de manière plus forte, mais aussi que les citoyens puissent se défendre normalement pour ne pas avoir de problème. Donc, il n'y a qu'à pas aller cambrioler chez les gens. Là, vous n'aurez pas de problème.
Donc pour Emmanuel de Villiers, c'est le règne du Far West, du cow-boy. On peut tous dégainer à partir du moment où on se sent menacé. Quoi,
non,
si
à
j'ai
partir
bien
du moment où une propriété est violée, c'est fait consciemment, sauf s'il s'agit d'un ivrogne, mais il n'ira pas bien loin, il restera derrière la porte. À ce moment-là, on a le droit de se défendre, car c'est un acte délictueux, voire criminel. On est menacé sur ses biens ou sur son intégrité.
D'accord.
Et la personne sait très bien qu'elle se met en danger. Ouais, c'est comme les refus d'obtempérer. On doit pouvoir mettre hors d'état de nuire les gens en matière de refus d'obtempérer.
Là, il y a mort d'homme et il y a un homme qui potentiellement risque plusieurs années de prison aussi, cet homme-là. Tu vois ce que devra déterminer l'enquête.
Oui, mais c'est totalement anormal. On marche sur la tête et 80% des Français sont de cet avis. C'est pas parce que je le dis, c'est la réalité.
Il y a une dimension, c'est que cet homme de 70 ans, pour se défendre, détenait légalement une arme.
Oui.
Moi, je détiens également légalement des armes, mais je crois que c'est essentiel aujourd'hui, dans la défense de son foyer, dans certaines situations, d'être armé pour faire face à des gens armés. Mais la plupart des Français ne détiennent pas d'armes chez eux.
Donc si on voit Antoine dire sur une boîte aux lettres, vaut mieux pas y aller.
Exactement, je préviens tout le monde. Mais que se serait-il passé si le septuagénaire n'avait pas été armé? Aurait-il pu réagir? Moi, je pense qu'on lirait dans la presse plutôt saucissonné, il a été maltraité, ils lui ont pillé tous ses biens, etc. Et que ce serait un fait divers dont on n'aurait pas parlé. Et bien là, comme il était armé, cet homme, il a pu se défendre.
Sauf que cet homme armé, sans doute, n'a pas l'habitude de tirer, donc il peut y avoir aussi, on va dire, des bavures.
Ah ben non, pardon.
Il peut se faire lui-même du mal, ou Olivier, à des proches.
Si tu détiens légalement une arme, c'est donc que tu es membre le plus souvent d'un club de tir, ou alors d'un club de baltrap, ou alors que tu es chasseur. Mais si cet
accident, ça existe.
Non, si cette autorisation de détention t'a été donnée, c'est qu'il a été constater que tu savais te servir d'une arme dans ton club de tir.
Tu peux très bien penser que c'est un cambrioleur, et puis finalement, c'en est pas un. Enfin, il peut y avoir. Si tout le monde est armé chez soi, il y a aussi des risques que ça dérape.
Pourquoi il a pas tiré en l'air? Pourquoi il a pas fait une sommation? Pourquoi il a pas dit n'essayez même pas?
Juste les pourquoi. Il est 3h du matin.
Il a
70 ans. Ouais. Et il a peur. Il se réveille. T'es à moitié désorienté. T'as des inconnus chez toi. Effectivement, sous le coup de l'émotion, ton jugement, il est pas le même que, comme nous, là, en train de commenter avec la distance, avec le froid, avec des si et des mais. Bien entendu que ça peut déstabiliser. Je peux juste revenir sur.
Oui, mais je voudrais continuer ton raisonnement. Parce que tu dis, il est 3h du matin. Effectivement, il a le sommeil. Il est pris de panique. Mais enfin, il est suffisamment lucide pour aller prendre son arme et dire je l'arme et je vais tirer. Donc il entend du bruit, tu peux très bien à ce moment-là, puisque tu sais qu'on s'introduit chez toi, tu peux très bien crier, hurler en disant j'ai une arme, allez-vous-en, plutôt que de tirer et de risquer toi-même.
Oui, mais il risque une escalade, qu'on s'en prenne à lui de manière.
Le cambrioleur peut tirer.
Lui, le cambrioleur, il va pas prévenir qu'il va tirer.
Non, mais il peut très bien partir aussi en se disant putain, il a une arme, j'ai 19 ans, je me tire.
C'est un risque que tu prends, mais est-ce que la sommation va le prendre ?
Justement, tu sais, on disait, Antoine disait, on aurait pas parlé. Une personne âgée qui avait frappé, justement. On n'en aurait pas parlé. Justement. Vous vous souvenez quand c'était les élections, et même certains ont dit c'est ce qui a fait gagner Chirac de ce.
Comment il s'appelait ?
Papivoise. Vous vous souvenez de Papivoise avec son visage tuméfié ? On a. Sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas le traumatisme de ça. C'est-à-dire, les gens qui ont signé la pétition, ils disent ça aussi. Ouais. Ils disent nous, on n'oublie pas Papivoise. Nous, les papis qui ont vu ça, c'est une peur. Panique. Vous sous-estimez complètement l'effet traumatique qu'ont eu toutes ces histoires auparavant. Donc effectivement, il y a cet instinct de défense. Je vous dis, c'est le côté légitime défense, c'est le code tripal qui a pris la suite.
Et c'est un échec, pardon, pour l'autorité publique. Si tu es obligé de te défendre toi-même, c'est que l'autorité publique est défaillante. Si le maire nous explique, bah oui, mais dans ce village, il y a beaucoup de cambriolages. Enfin, donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on ne peut pas reprocher à cet habitant les défaillances de sécuritaires de ceux qui nous gouvernent.
Il faut revoir complètement les lois et il faut revoir les obligations imposées aux juges en matière d'appréciation de légitime défense.
Non, mais alors,
maintenant, ça suffit. Le Far West, c'est celui de la justice qui décide d'incarcérer un type qui est agressé chez lui. Ça, c'est scandaleux.
Après, pour la légitime défense, le fait que ce soit, c'est pour ça que j'ai insisté plusieurs fois que c'était la nuit, le fait que ce soit la nuit, ça peut jouer pour la légitime défense.
Les conditions sont essentielles.
C'est subtil.
Il y a eu beaucoup de cambriolages dans le quartier, c'est la nuit, il a 70 ans.
Provocation, c'est la même chose à 15h qu'à 3h du matin. On n'a pas à aller violer le domicile des gens.
Mais la peur n'est pas la même la nuit. Peur est amplifiée.
Ça, c'est le contexte.
Tu te réveilles.
La légitime défense, c'est par rapport à la menace à laquelle tu fais face. Lui dit qu'effectivement, celui qui s'est introduit dans sa maison avait une petite arme de poing. Pour le moment, l'enquête devra déterminer si oui ou non, il y avait cette arme de poing. Comment il l'a tiré? Parce que le jeune homme, on l'a pas retrouvé dans la maison. Hein. On l'a retrouvé sur le toit, le corps. Hein. Il était sur le toit, il n'était pas dans la maison. Je ne me mets pas dans le camp, bien évidemment, du cambrioleur. J'essaie simplement de comprendre à quel moment on riposte. Parce que tu dis j'ai une arme.
Bientôt, on va le présenter comme le Père Noël qui venait par la cheminée.
Il est en train de réparer l'ancienne.
Très intéressant. J'ai une arme, mais j'ai des schémas mentaux positionnés chez moi. Tant que le cambrioleur n'a pas dépassé tel point, je n'ouvre pas le feu, tu vois, parce que
il voit le point, toi.
Bah, chez moi, tu vois, il y a un point.
Où... C'est le jardin. Mais non, tu restes dans le jardin, ça va.
Je te dis tout le contraire, Olivier. Je te dis que il peut prendre la télé. Je m'en fous. Je me mettrai pas en danger, etc. En revanche, enfin, je ne risquerai rien au plan pénal pour ma télé. En revanche, s'il dépasse un point,
tant que tu pourrais être menacé,
met ma
ta vie en danger,
mon intégrité physique en danger. C'est ça. Là,
c'est la vraie légitime défense.
De la même manière, il y a légitime
prévue par le code
pénal. Légitime défense, par exemple, si t'as des enfants et que quelqu'un veut agresser tes enfants. Et que tu le défends, qu'on approche d'une chambre, là aussi, c'est la légitime défense. Non. Et normalement, la loi doit défendre les victimes.
Non, il faut un commencement. Désolé, mon cher Alain, c'est assez rarissime que tu commettes des erreurs, mais tu viens de dire, c'est ça la légitime défense.
Non,
parce que la légitime défense dans l'appréciation judiciaire française implique un commencement d'agression et une réponse en proportionnalité.
Souvent trop tard.
C'est le monde à l'envers. Oui. C'est le type qu'il faut mettre hors d'état de nuire, pas d'attendre d'être atteint pour pouvoir répondre.
Oui, il aurait fallu que le cambrioleur ait commencé peut-être à frapper la victime pour que la victime ait le droit de tirer.
Il faut que la menace soit existante. Oui. Tout l'enjeu, ça va être de savoir s'il était réellement
déterminé.
Est-ce qu'il est menaçant?
Les lois, c'est pas l'étape de l'évangile. Les lois sont faites pour échanger.
Mais je suis bien d'accord.
Et quelqu'un qui est chez toi alors que tu l'as pas invité à être chez toi au milieu de la nuit, est-ce que c'est pas déjà un début de menace? Que la menace soit existante. Il y a quand même ce truc là. On est dans un cadre. On n'est pas en pleine rue avec un petit papy qui a sorti son arme et qui tire.
Dans un instant, on va continuer la discussion et on va en parler avec Mickaël dans un instant. Mickaël est chef d'entreprise, il est dans l'Essonne et il a signé la pétition de soutien à cet habitant de Gionnaz, dans la banlieue lyonnaise. Et bravo Ludy Emmanuel. Cambrioleur tué.
C'est un peu notre Charles Bronson.
C'est la légitime défense qui est posée, qui est en débat. Et puis cette pétition de soutien, vous venez en discuter avec nous au 32-16, il est 9h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Chez les grandes gueules avec Emmanuel Devilliers, avec Antoine Dierce, avec Fatima Hidbounois et surtout avec vous au 32-16 pour reparler de cette histoire de Gionnaz avec cet homme de 70 ans qui est soupçonné d'avoir tué son cambrioleur. Lui dit j'étais en état de légitime défense, c'était la nuit, il avait une petite arme de poing, il s'est introduit chez moi par le toit et au moment où il est reparti, j'ai tiré, il l'a tué. Alors toute l'enquête devra déterminer l'état de la légitime défense, on va en parler avec Mickaël parce que cet homme fait l'objet d'une pétition de soutien. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Et je vous remercie d'avoir patienté, vous avez pu écouter tout le monde et vous avez signé la pétition.
Oui, ce matin, je suis tombé dessus et en regardant l'actualité, j'ai signé la pétition en effet.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que je comprends que dans un moment de peur, de panique, en pleine nuit, qui prennent peur et qui se défendent. Voilà. Alors, je cautionne pas qu'il ait tué quelqu'un, parce que c'est quand même difficile d'enlever une vie. Mais je comprends tout à fait qu'il ait pu avoir peur, paniquer et tirer.
Vous mettez un peu à sa place, en fait, en quelque sorte.
Ah, mais non seulement je me mets à sa place, mais comme je disais.
Au standard,
c'est ça. C'est qu'avec ma femme, on réfléchit à s'inscrire à un club de tir.
Ah bon? Donc, une arme derrière, avoir une arme à la maison derrière. Vous vivez en pavillon, enfin en maison pavillon.
On a vécu une situation. Bien plus simple à gérer il y a à peu près 18 ans, où j'ai des jeunes qui se sont introduits dans le jardin et ma femme était enceinte jusqu'au cou et qui a paniqué. Mmh. Alors, ils sont venus une première fois, ils sont venus une deuxième fois. La deuxième fois, je suis sorti, on a réussi à les choper avec la police, l'aide de la police. Mais, alors, c'était des gamins qui s'amusaient. Heureusement qu'à la limite, j'aurais pas tiré sur quelqu'un dans le jardin, mais ces gens seraient rentrés chez moi, j'aurais peut-être, avec mes filles, etc., j'aurais peut-être tiré dessus. Et c'est malheureux, mais voilà. Et j'ai un de mes amis douaniers qui lui vit en campagne, qui m'a même dit inscris-toi à un club de tir. Il me dit toi encore, t'es en banlieue, il y a plus d'effectifs de police. Je sais pas si Gionnaz est dans une commune un peu isolée ou quoi que ce soit.
C'est à quelques kilomètres de Lyon.
Que quand lui il a fait les effectifs de police, de gendarmerie et de douane, il dit on n'est pas assez nombreux. Donc lui-même me conseille d'aller m'inscrire à un club de tir.
Oh ben ça c'est quand même la faillite de notre pays si les citoyens se mettent à se dire aujourd'hui.
On sait qu'il n'y a pas assez de policiers et gendarmes dans ce pays.
On va faire justice nous-mêmes. Enfin vous êtes en pleine réflexion.
C'est se défendre. Pardon. Oui, là, oui. Mais... Il n'a pas souhaité faire justice, le monsieur, manifestement.
Non. Et donc, je suis assez d'accord. C'est pas faire justice.
Il a souhaité assurer son intégrité physique qu'il sentait menacée sur le moment. Et c'est tout l'enjeu du débat. La légitime défense, ce n'est pas faire justice soi-même. C'est préserver son intégrité physique et ses biens. La légitime défense, j'ai revérifié le cadre réglementaire à la pause, peut aussi porter sur la protection des biens.
Se faire justice soi-même, c'est si, par exemple, si le cambrioleur
si ça n'était pas
avait pris
immédiat.
La fuite et que si c'est arrivé, il y a eu une histoire comme ça chez un concessionnaire.
Moi,
c'est
devenu
court derrière en voilà, tirant dessus.
Allez-y, Mickaël.
Moi, si je peux me permettre, ma limite sera quelqu'un qui pousse la porte. Ça veut dire quelqu'un qui, à partir de un doigt, un pied de
voilà,
ma maison,
je vais regardé.
Attendez, vous tirez comment ?
Même
vous
si c'est votre belle-mère.
Vous tirez en l'air, Mickaël. Vous tirez en l'air et vous dites barre-toi, vous faites un tir de sommation.
Je ne sais pas comment je réagirais.
Bah voilà, c'est le problème.
Dans le cadre réglementaire, il n'y a pas de sommation exigée.
Vous pouvez pas savoir parce que quelqu'un, vous savez pas s'il peut être armé, s'il a un couteau. Si vous arrivez le temps que vous venez de vous réveiller, vous êtes à moitié endormi.
Quitte à ce que ça vous envoie en prison.
Ah mais je vais attendre qu'il tue une
de mes filles.
Bien évidemment, si vous posez cette question,
cet habitant n'ira pas en prison. Là, il est en garde à vue.
Et redonnons un élément.
Allez-y, Mickaël, finissez votre propos.
Je me suis permis de signer cette pétition, non pas parce que je cautionne le fait qu'il ait tué cette personne. Mais le fait que s'il passe et il passera devant le tribunal, et bien que s'il prend une peine, et bien que ce soit du sursis, que ce soit quelque chose comme ça, mais que cet homme-là n'aille pas en prison. Je veux dire, il était tranquillement en train de dormir chez lui, on rentre, on passe par le toit, on lève les tuiles. Je veux dire,
oui, moi, une détermination. Et donc, justement, ce point-là, Mickaël, semble correspondre particulièrement bien au cadre réglementaire qui prévoit une présomption de légitime défense pour les effractions de nuit, etc. Donc, tu disais tout à l'heure, Emmanuel.
Oui, mais après, tu mets un juge rouge là-dessus et tu vas en tôle.
Oui, tu disais tout à l'heure que le cadre réglementaire était pas si bien fait. Là, je l'ai relu. Il y a quand même de la présomption de légitime défense. C'est pas assez. C'est très restreint. Mais là, je pense qu'on sera typiquement dans le cas de présomption de légitime défense, vu le contexte, vu l'effraction, vu l'âge de la personne, etc.
Après, ça serait très intéressant qu'on en parle. Ça veut dire qu'on suive. Parce que des fois, on parle d'une affaire parce qu'il y a une pétition, parce que ça vient de se passer. Et on a pas la suite. Donc moi j'aimerais bien les GG, nous pourrions nous engager par exemple. Bah,
son procès, t'inquiète
ça.
Pas, on en parlera bien évidemment quand il va arriver. Je remercie Mickaël
d'avoir...
Oui, je vous en prie, bien sûr.
Moi je pense, et là c'est là où la justice va pas, je pense que si, quand vous faites votre premier cambriolage, bah, vous prenez 2 mois ferme. Si vous faites votre deuxième cambriolage, vous prenez 1 an ferme. Si vous faites votre troisième cambriolage, vous prenez 5 ans ferme. Je sais qu'il n'y a pas de place dans les prisons, mais peut-être que ça ferait réfléchir plus les gens. Et que ça les pousserait peut-être plus à faire autre chose.
Mais alors là, Mickaël, vous avez d'autant plus raison que j'ai vu dans l'actualité le cas d'un homme qui avait été condamné 52 fois.
Oui.
Si tu l'as vu aussi, Antoine.
Ouais,
52 fois. Alors pour des menus larcins, vols, etc. Mais enfin, quand même, 52 fois. Il y a un moment où vous dites c'est pas possible.
On a tous le droit à une 53e chance, Alain. Vraiment.
Merci, Mickaël, d'avoir été avec nous. Je vous remercie.
À bientôt,
Mickaël, de l'Essonne, de Brunois. Fatima, et puis ensuite, on va écouter Angélique dans la main.
Juste pour ce côté-là, le nombre de fois. J'écoutais, enfin, c'est pas un cambriolage, c'est sur l'agression. La maman de Théo, vous savez, ce Théo qui a été agressé dans un immeuble. Et je l'ai entendu à 2 reprises dans l'émission de Cyril Hanouna et puis sur Europe 1, je crois. Elle était poignante. Je vous conseille de l'écouter. Et elle, ce qui la rend malade, c'est le fait que les personnes qui ont frappé son fils, il y avait cette récidive-là. Et puis, elle dit, mais ils ont sauté sur la tête de mon fils pendant 2 minutes.
Ouais.
Vous voyez ce que c'est 2 minutes? Elle est en train de dire ça. Elle dit, vous voulez qu'on voit 2 minutes ce que c'est? Et le cri de cette mère-là, on avait déjà eu avant elle, la maman d'Elias. Moi, je pense qu'il y a des mamans là qui ont eu des paroles très, 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 très fortes et qu'absolument tous les politiques, quel que soit leur parti, devraient prendre très au sérieux cette exaspération. Parce que les gens n'ont pas simplement peur, les gens sont en colère. Les gens n'ont pas, on n'est pas des pauvres petites choses en train de se dire aidez-nous, protégez-nous. On est en train de dire la société telle qu'elle est, elle dysfonctionne et on n'accepte pas ça. Donc il faut prendre en compte non seulement la peine de ces mères, mais c'est pas des mères qui sont sous l'émotion, ce sont des citoyennes qui disent quelque chose et qui doivent être entendues. Donc la maman d'Elias et de Théo doit vraiment être entendue.
C'est pour ça qu'on ne peut pas faire peser sur cet homme de 70 ans l'échec des sanctions, l'échec de la répression, l'échec de la lutte contre l'insécurité, parce que c'est trop facile. Après, le citoyen se retrouve finalement face à lui-même et se débrouille par lui-même. Et après, il va faire une chose. Bien sûr, on aurait tous voulu que ce jeune de 19 ans ne meure pas pour un cambriolage, mais on peut pas faire peser sur cet habitant tout cet échec qu'on est en train de décrire.
On a Angélique qui est avec nous. Elle nous appelle de la Loire. Bonjour, Angélique.
Bonjour les GG.
Bienvenue. Vous vouliez réagir, vous, en tant que victime de cambriolage, c'est ça?
Oui, c'est ce que je disais à votre standardiste. Nous, on a été victime d'un cambriolage le 16 septembre 2016.
Ça s'est passé comment?
À 21h.
2016?
Oui.
Dans votre maison, appartement?
Maison. On était invité, c'est ce que j'ai dit à votre standardiste, pour faire rapide. On était invité à manger chez des amis. Notre fils aîné a pas voulu nous suivre parce qu'il avait une soirée de son côté. Il est parti à 21h, puisqu'on l'a appelé quand on a constaté l'effraction. Et mon voisin a vu des gens courir à 21h30 dans le terrain mitoyen. Donc je pense que la maison était surveillée. Ils avaient coupé l'électricité dans le quartier. C'est ce que j'ai dit à votre standardiste. Et j'ai le soutien total avec ce papy de 70 ans, quoi. Parce que quand on est rentré, la première chose qu'on a fait, c'est regarder s'ils étaient là.
Bien sûr.
Et s'ils avaient été là, je ne sais pas comment ça serait passé. Et pourtant, oui, je vais me répéter, on n'a pas le même âge. Mais c'est la colère, c'est la peur. Alors ces gens-là ont été un petit peu couillons, puisque dans la nuit, ils ont été interpellés.
Ah, d'accord. Et c'était des récidivistes du cambriolage? C'était une bande habituée au cambriolage?
Alors, je pense que vous avez été surpris par le chiffre. C'était un gang des pays d'Est. Oui. On était la 129e victime.
La combien, j'ai pas entendu?
129e victime.
Ah oui, c'était un gang qui était assez productif.
Efficace.
Ah, ben je pense, oui. Parce que les gendarmes, dans leur domicile, ont même retrouvé 120. des stylos billes.
Ah oui, il n'y a pas de petit profil.
Chez quelqu'un.
Ah oui, ils prennent tout ce qui se passe. Oui.
Et nous, malheureusement, avec mon mari, on n'a plus deux de nos parents. On avait des bijoux qu'on allait récupérer en héritage. Ouais. Et ça, ils y ont pris.
Et ce gang, ils ont réussi à mettre la main dessus. Vous avez récupéré une partie du butin?
Non, on n'a pas pu.
Mais vous voyez, lorsqu'on entend notre auditrice, ça s'est passé en 2016, c'était il y a 10 ans.
Elle s'en souvient encore.
Je pense qu'elle se souvient même de la sensation quand elle est rentrée. Est-ce qu'on sous-estime?
Mais c'est ça.
Mes parents étaient cambriolés. Il y a eu un squatteur. Quand je suis rentrée dans la maison, parce que je savais pas s'il y avait la personne encore, ou à Poitiers, cette sensation quand on rentre et l'odeur, il y avait une odeur de cigarette, une odeur qui était pas l'odeur habituelle de la maison, je peux vous assurer qu'il y a ce côté de violation de l'intime qui nous marque. Et toutes les personnes qui ont pu être cambriolées, déjà quand elles constatent après, il y a ce côté, on a l'impression qu'on est venu de force dans notre intimité. C'est pour ça que certains comparent avec le viol, toute proportion gardée, il y a ce côté-là de violation de l'intime, oui.
Au lieu d'être indulgent avec les cambrioleurs, de manière laxiste, on devrait mettre le droit à la légitime défense dans la Constitution.
Alors, Angélique, je voudrais qu'on termine la discussion avec Fabien qui est avec nous, qui est fonctionnaire territorial et qui est tireur sportif aussi et formateur justement au tir. Il est dans la Marne. Bonjour Fabien.
Oui, bonjour.
Vouliez réagir notamment à ce que vous avez entendu, c'est-à-dire aux gens qui veulent s'inscrire dans les clubs de tir aujourd'hui, quoi, en fait, c'est
ça? Oui, parce que aujourd'hui, on le voit, il y a la conjoncture actuelle, insécurité, manque de sanctions. C'est vrai que j'ai l'impression que les victimes ne sont pas considérées et qu'à chaque coin de rue, même chez soi, on risque sa vie. On voit que les gens, ils sont en stress et il y a une recrudescence des inscriptions. De toute façon, on peut aller voir les sites de la Fédération Française de Tir. Les gens, ils veulent se défendre. Parce que peut-être que les forces de l'ordre, aujourd'hui, sont trop éloignées, quoi, surtout à la campagne. Je crois qu'une stade, c'est la première gendarmerie à 30 minutes d'intervention. Ils peuvent intervenir s'ils ne sont pas à l'autre bout du canton.
Mais qu'est-ce que vous répondez aux gens, puisque vous êtes formateur, qui viennent avec cette motivation en vous disant, écoutez, moi, je viens parce que je me sens pas en sécurité. Qu'est-ce que vous leur dites?
Bah, c'est compliqué parce que moi je dis qu'une arme à feu, bah, faut apprendre à la manipuler. C'est vrai que là, moi je suis dans un stand de tir. Bah, y a des gens, ils voient jamais quoi. Donc c'est bien beau, ils ont une arme à feu, une arme de catégorie B.
Voilà, il s'inscrit, mais
contrairement à ce que disait Antoine qui nous disait que tous ceux qui avaient l'arme à feu s'entraînaient.
Attendez, pour avoir la feuille verte, faut avoir passé un an dans le club, être venu plusieurs fois, etc. Et donc tu es formé à la base. Mais après, effectivement, ils viennent plus.
Après, ils viennent plus, donc ils ont une arme chez eux,
ils sont formés. Plus tard, quand il faut refaire la demande d'autorisation.
Exactement.
Et entre temps, ils se sont achetés des armes.
Sur autorisation du préfet,
qui met ça dans une armoire.
Mais le problème aussi, c'est qu'avant, Antoine, bon, je pense que vous êtes au courant des procédures. Il y avait la FSTIR qui obligeait d'avoir trois tampons, trois tirs contrôlés sur une année entière pour pouvoir, et sous ça sur les cinq ans, pour pouvoir
commencer au plomb, etc. Moi j'ai fait ça.
Au plomb avec une progression. Il y a des stands de tir où les gens on les voit pas, ils se pointent avec la feuille verte et c'est la responsabilité du président qui dit oui je te signe ou je te signe pas.
Il faut, moi je pense que Fabien, il faut pas minimiser le danger que peut représenter quand même d'avoir une arme chez soi. Antoine, je suis pas d'accord avec toi parce que tu dis oui, c'est des gens. Quand même, une arme chez soi, c'est un danger. Elle peut être utilisée par un enfant, par pour de mauvaises raisons. Il peut y avoir des accidents. Il y a des accidents. Pardon, dans un pays comme aux États-Unis où tout le monde est armé, il y a beaucoup d'accidents.
Vrai, tout le monde
n'est
pas armé aux États-Unis.
Elle peut être volée également. Prudence sur le côté de la sanitisation de l'armement.
Moi, j'ai une question à Antoine. Est-ce que pour une défense de moyen terme, tu as également des nunchaku?
Non, mais je vais m'y mettre. Le tir à l'arc aussi.
Allez-y.
En France, le stockage des armes est très réglementé. Et logiquement, tout doit être dans un coffre-fort ou démonté et mis en sécurité pour éviter justement pas que les cambrioleurs disent je sais qu'il y a des armes et je vais les piquer. Non, c'est pour éviter que des personnes qui ne sont pas habilitées à manipuler une arme. Voilà. Donc, puissent accéder, donc les enfants, des invités sur une soirée, normalement c'est pareil,
le schéma mental d'ouverture du coffre.
Donc il faut ouvrir un coffre et c'est pareil.
Vous êtes quelqu'un de raisonnable et prudent.
Tout le monde dois fournir la facture de ton coffre pour procéder à l'acquisition d'armes.
Il y a plein d'armes en circulation en France,
des armes illégales, mais donc ne parle pas des armes légales et des tireurs sportifs.
Non, mais ne fais pas croire qu'avoir une arme chez soi c'est banal.
Pardon,
je peux pas dire
les armes légalement
avoir une arme chez soi,
par les tireurs sportifs sont parfaitement sécurisées.
Et en
revanche, Fabien, les méchants ont plein d'armes illégales.
Merci à Fabien, merci à Angélique. Vous aurez conclu notre discussion. Merci à tous les deux. Bonne journée, Angélique et Fabien.
Bonne
à bientôt. À bientôt dans les GG. Alors, on était sur ce qui s'est passé. Est-ce que vous pourriez signer la pétition? Michael, tout à l'heure, nous a dit qu'il l'avait fait. Et là, vous dites oui, signez la pétition de soutien à 95%. Il est 10h-20. Dans un instant, là, on s'en fout, pas.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, avec aujourd'hui dans les Grandes Gueules Emmanuel Devilliers, le chef d'entreprise, Antoine Dierce, le consultant juridique, Fatima Hidbounois, la professeure de français. Ah oui, avec les municipales qui approchent, eh bien qu'on avait quand même des petits rendez-vous à se donner. Attention, les Grandes Gueules vont sortir à Marseille le jeudi 19 février, on va aller dans les villes où il va y avoir de gros enjeux politiques, même les enjeux locaux et qui seront regardés nationalement. Donc la bande des Grandes Gueules sera à Marseille le jeudi 19 février, on sera au Palais de la Bourse, 9 rue de la Canebière. On sera à Lyon aussi le 24 février au Palais de la Bourse aussi, c'est 20 rue de la Bourse. Vous voulez assister aux émissions des GG, vous nous faites une inscription sur public@rmc.fr, public@rmc.fr. Ça c'est pour les rendez-vous, pour que nous soyons ensemble. Et si après-demain vendredi vous voulez gagner 30 000 euros, là c'est pas compliqué, vous envoyez 13 par SMS au 73216. 13 par SMS au 73216. Pourquoi est-ce qu'on vous fait gagner 30 000 euros vendredi? Parce que vendredi nous serons le...
Vendredi 13.
Le vendredi 13.
Et ça porte chance.
Jour de chance. On fera tourner la roue.
Et alors, vous pourrez gagner 1000, 10 000, 30 000, 13 000, 50 000, 1 million d'euros. Non, vous pouvez gagner jusqu'à 30 000 euros.
Ça, c'est magique, comme on a fait croire que le 13 portait bonheur.
Oui, alors que
le capitalisme est incroyable. Alors qu'à la base, c'est pas ça du tout.
Ah bon, le capitalisme, tout est recyclé positivement.
Allez-y, faites-vous plaisir, gagnez en envoyant 13 par SMS au 732-16 et rendez-vous avec les grandes gueules vendredi pour le tirage. Bon, on y va pour l'on s'en fout, on s'en fout pas quand même, le temps file.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout, on s'en fout pas.
Elle est là, elle est avec nous, Anaïs Inès Sainz, bonjour.
Bonjour Alain, bonjour les GG. Le nombre de fonctionnaires, tiens, encore en hausse. C'est s'inquiète le Figaro ce matin, chiffre de l'INSEE à l'appui, hein, avec encore 32 000 agents recrutés en 2024. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Antoine ?
On ne s'en fout pas.
Fatima ?
Ah ben non, on s'y intéresse vraiment.
Emmanuel ?
On ne s'en fout pas.
Augmentation qui va se poursuivre encore cette année. Hein. On rapproche donc un peu plus des 6 millions d'agents publics. Et c'est l'État qui a été le plus gourmand, comme depuis cette dernière décennie d'ailleurs, rapporte le journal, avec près de 21 000 fonctionnaires de plus. Il arrive loin devant la territoriale et les hôpitaux, qui se sont contentés de 5 700 agents supplémentaires. Pourquoi tu ne t'en fous pas, Antoine ?
Il y a une espèce de phénomène dans notre pays, c'est que nous sommes incapables d'arrêter la machine. Sur l'insécurité, on fait des discours, mais il se passe rien. Sur le déficit, on fait des discours, mais il se passe rien. Sur le recrutement des fonctionnaires, et tous les politiques nous disent attention, on va recruter moins de fonctionnaires, il faut arrêter, etc. Et la machine est emballée.
Impuissance à arrêter
la machine. Personne ne peut l'arrêter. L'État obèse, devenu parfaitement impotent, qui continue à s'empiffrer comme ça. J'ai le plus grand respect pour les fonctionnaires, mais il faut arrêter d'en embaucher. Voilà. Et je ne sais pas comment faire.
Tout dépend des secteurs, évidemment.
Mais Emmanuel Macron, il y a 10 ans, avait dit il faut en supprimer. Hein.
Oui,
il voulait supprimer 150 000 postes de fonctionnaires.
Et c'était le texte était prêt d'ailleurs. C'était un des premiers textes qui était prêt. Il aurait dû passer à l'Assemblée nationale pour permettre de licencier des fonctionnaires. Et ça, on n'a jamais réussi à passer le tabou. Pourquoi ? À cause des syndicats, etc. Bref, ce pays est irréformable.
Il y a un chiffre qui va te faire plaisir, Emmanuel, dans le Figaro. Entre 1997 et aujourd'hui, plus de 1 million de fonctionnaires ont été embauchés en France. Oui. Ça a fait gonfler la fonction publique de 24%, alors qu'au même moment, la population n'augmentait que de 14%.
Mais la faute aux 35 heures aussi,
absolument,
par là.
C'est une onde de choc des 35 heures, même si c'est
donc on va de 97,
c'est comme un tsunami, il y a encore des vaguelettes 7 000 kilomètres plus loin. Et en fait, si on compare avec une entreprise privée, ça c'est un cas que j'ai connu en permanence, c'est dans une entreprise privée, dans les équipes, les gens vous disent, il nous faudrait une personne en plus, un jardinier en plus, qu'on n'y arrive pas, etc. Regardez, c'est trop dur. Et dans une entreprise privée, vous dites, non, on peut pas. On peut pas, on va se réorganiser. Ouais. Mais dans la fonction publique, on met des plans de recrutement. Et c'est un des grands échecs, je dis ça sans agressivité, des deux quinquennats Macron, puisqu'il s'était présenté comme un néolibéral, comme quelqu'un qui allait moderniser la France, redresser l'économie française et la gestion publique. Et en fait, c'est tout l'inverse. On a peine à comprendre comment on en est arrivé là. Il y a un manque d'autorité. Il y a des ministres aussi polichinelles qui ont été nuls d'un bout à l'autre. Et je crois que maintenant, il y a près de 300 ministres depuis 2017. Et il faut 5 bus pour transporter les gouvernements.
Un avion.
Notre fonctionnaire, Fatima.
Oui, mais le problème,
c'est un statut,
parce que tu avais... Ouais, c'est ça.
Oui, c'est
en fait, c'est fonctionnaire, c'est l'espèce de fourre-tout qu'on a. Mais là où c'est magique et catastrophique en même temps, c'est qu'à la fois... Parce que tu prenais l'image de l'État qui mange. Mais à la fois, on mange et on souffre de malnutrition. Vous voyez le problème, c'est que dans un même temps, on est en train d'annoncer des suppressions de postes de professeurs, par exemple, pour la rentrée de 4000 postes en moins. Vous voyez bien qu'il y a des endroits où on manquait de professeurs et on n'a pas recruté, on a pris des vacataires. Et justement, avec un recrutement à l'arrache comme ça, vous rappelez les speed dating de profs où on prenait tout et n'importe qui. Et après, les gens se sont dit, ah mais attention, on va pas confier nos enfants à tout et n'importe qui. Donc à la fois, on ne règle pas le problème, c'est ça le gros problème. Donc c'est à la fois une... je ne sais pas comment ils font. Donc il y a un problème de gestion. C'est pas une question de nombre, c'est une question
de
répartition, de politique globale, parce que c'est absolument pas possible.
Mais l'exemple des 4000 profs.
D'avoir ces annonces-là.
Et pardon, pour l'année prochaine. Pardon, Fatima, c'est que 4000 profs en moins, si on avait suivi la courbe démographique du nombre des élèves, il en faudrait 10 000 en moins. Et donc, en fait, même là, on ne réduit pas suffisamment par rapport au nombre d'élèves. Mais on va dire, ah ben non, pas moins de profs.
C'est l'occasion, une occasion à saisir pour enseigner autrement, pour régler plein de choses. C'est un investissement, l'éducation. L'éducation, c'est un investissement.
Bah, on a beaucoup à investir. Attention, on va être millionnaire.
On enchaîne.
Sur du long terme.
GG, achetez français vos fruits et légumes. Les producteurs ont besoin de vous. Et oui, la filière des poireaux, par exemple, est en grosse surproduction, phénomène tel que Auchan, Carrefour, Casino, Coopérative U et même Intermarché ont appelé hier les consommateurs à acheter des poireaux français. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Emmanuel ?
Comment s'en foutre ? On s'en fout pas.
Fatima !
Mais non, on s'y intéresse.
Et on Antoine ? On s'en fout pas.
Emmanuel ?
Ouais, non, les poireaux, c'est un peu chiant quand même.
Pourquoi ?
Pour principe. Bah, c'est pas moi, je préfère des pâtes arrabbiata, des trucs.
C'est pas le truc le plus sexy.
Qui bouge. Mais par contre, il faut le souligner. Et on s'y astreint à manger, par exemple, des poireaux. Une fondue de poireaux, c'est pas trop mauvais.
Mmh. Mais français.
C'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé, indéniablement. C'est filandreux pour ce qu'on appelle le transit intestinal.
Ah, tu sais donner envie, toi.
Des fibres.
Oh là là.
Personnellement, je préfère alternativement les endives. C'est peut-être plus facile
bon,
d'accès.
C'est
quoi vos meilleures recettes de poireaux, les GG ? À part le poireau vinaigré.
Non, mais attends, le problème, c'est manger des poireaux français.
Oui, mais c'est ce qu'on est en train de dire.
Comme Sébastien Lecornu.
Non, mais là.
Vous vous souvenez de la photo de Sébastien Lecornu ?
Est-ce qu'on est obligé de mettre un gilet pour aller acheter
des poireaux ? En fait, Lecornu, pour faire genre je suis un français comme les autres, il avait mis deux poireaux en évidence dans son cabas. Et alors, je sais pas comment il les avait fait tenir parce que ça sorte bien qu'on voit.
Tout le temps le poireau qu'il avait
des
poireaux.
Non, non, parce que si tu vois bien la photo, elle était très travaillée. Et donc, non, mais c'est intéressant parce que dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire français, le poireau, c'est le truc du français moyen, en fait. C'est ça que Lecornu voulait faire passer.
Monsieur Poireau.
Bon, Emmanuel, rendre sexy le poireau, tu n'as pas du tout réussi en parlant de transit et en disant c'est moins. Vraiment.
Ode au poireau.
Ode au poireau. Écoutez, les poireaux, c'est très bon, déjà. Poireau avec ça dépendait, avec un peu d'ail, revenu avec un peu de beurre, du saumon, c'est très bon. Il y a des soupes, ça peut être super bien. Autant, faut le cuisiner.
Soupe de poireau.
Mais soupe avec des pommes de terre, c'est
un truc. Pensez à ma maman, j'en ai mangé beaucoup, mais effectivement.
C'est un trauma d'enfant.
T'arrives pas à me vendre la soupe de poireau, là.
Non, mais ça peut être très bon. En revanche, moi, ce que j'aime pas, c'est le côté. Moi, je veux bien avoir le poireau patriotique, ma quiche patriotique, ma soupe patriotique. Mais arrêtez de faire peser sur les Français et sur notre consommation des questions qui nous dépassent largement aussi.
Alors, je tiens à attirer votre attention sur ce qu'a dit Emmanuel de Villiers. Effectivement, les poireaux sont riches en fibres, en antioxydants avec la vitamine C, en vitamine K, qui est essentiel pour la coagulation du sang et la santé osseuse, et en minéraux comme le potassium, le magnésium et le calcium. C'est important pour la santé cardiovasculaire et osseuse. On n'aura donc qu'un mot. Vive
les poireaux. Mais pourquoi il y a des petits grains de sable là? C'est pas agréable.
C'est pour ça qu'il faut bien les nettoyer. Tu les coupes en deux, tu les ouvres, enlever un peu de verre.
Est-ce que je coupe les feuilles?
Tu
l'achètes, mais on t'en coupe la moitié. Non, mais j'ai jamais compris.
C'est toujours une arnaque. Surtout que si le type te pèse des poireaux avec
tout, puis ensuite
tu coupes.
Allez,
il t'en donne que la moitié.
Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, on va s'intéresser aux nominations du président de la République. Là maintenant, il doit nommer le président de la Banque de France. On a eu la Cour des comptes. Alors, est-ce que Emmanuel Macron est en train de mettre en place une espèce de grand verrouillage politique ? 32-16 pour en parler avec nous.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.